الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne tawfiq ce soir de reprendre nos programmes sur l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal. Et depuis plusieurs mois, nous continuons à avancer dans l'étude du nom d'Allah Ash-Shakur, celui qui est reconnaissant, celui qui donne beaucoup, celui qui rétribue beaucoup plus que ce que nous méritons et les différents sens que bi'idhnillah on a eu l'occasion de développer. Et autant on va essayer d'apprendre, de comprendre, on n'obtiendra jamais une connaissance qui est fidèle à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Nous ne ferons qu'effleurer et qu'avoir une approche de la grandeur de notre Seigneur. Mais plus on fait cet effort, mieux on connaîtra notre Rabb, notre Seigneur, et on verra l'effet spirituel dans notre foi, de notre iman, de notre relation avec Allah Azza wa Jal, mais également de notre cohérence, de la cohérence de nos pratiques au quotidien. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont une pratique déséquilibrée de la religion. Qu'est-ce qu'on appelle une pratique déséquilibrée ? C'est une pratique qui parfois, elle est, je ne dis pas excessive, mais elle est très présente, admirable, mashallah, dans certaines circonstances. Mais dans d'autres circonstances, il y a comme un retour à une situation normale, qui est plutôt anormale, et il y a disparition de ces signes de iman. Une personne, c'était la saison de Umrah, hein, il y a eu beaucoup de gens qui étaient partis à Umrah, mashallah, durant le mois de janvier. Ben, on peut parfois avoir une personne qui, à Makkah et Madina, mashallah, a une assiduité, mashallah, impressionnante dans les heures de namaz, les présences, les tahajjoud et tout ça, ce qui est excellent, rien à dire. C'est une guidée de la part d'Allah, c'est une porte qu'Allah ouvre pour cette personne, qu'il se rapproche de lui dans ces moments. Mais après, si on constate qu'au retour à la réunion, ou quel que soit l'endroit, ben la personne retourne dans son quotidien et que cette ferveur qu'elle avait pour être présent à la masjid al-Haram, Makki ou Madani, 15, 20, 30 minutes avant la salat et les heures qu'elle passait dans la masjid, ben elle ne retrouve pas cette ferveur dans les 5 salats dans la masjid ici, ou l'islam, ou peu importe l'endroit. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre dans la pratique, un manque de cohérence. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive parfois à un manque de cohérence dans la religion? Alors, permettez-moi un autre exemple d'incohérence dans la pratique. C'est la personne qui, ça, à maintes reprises on en a parlé, qui est assidu à ses prières cette fois-ci. Mashallah, c'est adhkar, sa lecture de Coran, elle est exemplaire. Mais ce croyant a un comportement déplaisant à l'égard de ses parents ou envers son épouse, ou n'assume pas son rôle de murabbi, d'éducateur, et ainsi de suite. Ou relation avec le voisinage n'est pas correcte. Tout ça s'appelle un déséquilibre de la religion et un manque de cohérence dans la pratique. Et qu'est-ce qui fait qu'on a ces déséquilibres? C'est que on n'a pas réellement intégré la notion de ibad, la notion d'adoration. Et à l'ibad, les ulama aqida disent que huwa at-tazallulu wal-fudu'u lillah. C'est la soumission totale du cœur, du corps, c'est le don de sa vie pour Allah. Abdurrahman va nous citer le verset qui rappelle que ma vie, ma mort, mon existence est pour Allah. Qul lillah rabbil alamin. J'appartiens à Allah. Ça, c'est la notion profonde de al-ibada. C'est quand le croyant réalise que sa vie est pour Allah, ses années c'est pour Allah, chaque euro, dollar ou rial qu'il a de son portefeuille c'est pour Allah, c'est-à-dire tout ce que je fais, mon existence c'est pour Allah, c'est le sens profond de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais quand le moumine l'intègre, c'est là qu'il trouvera la cohérence de la pratique de la religion. Et quand est-ce qu'on arrive à l'intégrer? C'est quand on arrive à vraiment, entre guillemets, à identifier notre Khaliq, notre Seigneur.
c'est quand le mu'min a réellement compris qui est Allah, qui est son créateur, qui est son malik, qui est son maître, devant qui il se prosterne, pour qui il fait le recours, la génuflexion. C'est là qu'on a identifié notre Seigneur, on connaît Allah, et c'est là qu'on trouve l'équilibre dans la pratique de la religion. Et ce sera une pratique avec istiqam, avec fermeté et constance. Et c'est cette approche de la religion qui est complète et qui est permanente, qui est constante. C'est ce qui est voulu par Allah Azza wa Jal. Et donc, quand on étudie les noms d'Allah Azza wa Jal, ça nous permet donc, comme on a dit, de mieux connaître Allah, et on trouvera une cohérence, un certain équilibre dans notre iman et notre pratique de la religion. Et quand je dis équilibre, c'est surtout, on parle d'assiduité. On parle d'assiduité et une pratique qui est ordonnée, pas une pratique désordonnée où on va favoriser certaines actions et en délaisser d'autres. Ou alors, d'autres cas de figure, c'est qu'on va favoriser les bonnes actions, mais on va être beaucoup plus léger sur les péchés. Non, mais il fait plein de bonnes choses, moi. Maintenant, si en dehors de ça, il fait quelques petites bêtises, Allah il connaît, Allah il rafour rahim. C'est ce qu'on appelle également une pratique désordonnée et déséquilibrée. Donc, Ash-Shakur, on s'en inspire maintenant pour essayer d'être de notre côté reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et reconnaissant envers les créatures d'Allah Azza wa Jal et faire preuve de bienfaisance envers les personnes qui nous entourent, tout comme Allah agit avec nous. On essaie de prendre un peu, de s'inspirer de cette qualité d'Allah, et je pense qu'à chaque fois on rappelle cette citation des ulama de Aqidah quand on clôture l'étude d'un des noms d'Allah. On appelle ça At-takhalluqu bi akhlaqillah, s'inspirer des qualités d'Allah Azza wa Jal pour essayer de mettre ces qualités dans notre vie. Et celui qui le faisait de façon parfaite, c'était qui? Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salat wa atammu taslim. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Et donc, en étudiant le nom d'Allah Ash-Shakur, je vous donne ma parole, ça peut régler énormément de problèmes relationnels au sein du couple, au sein des familles, au sein de la société. Et ça peut nous apporter un apaisement intérieur. Parce que quand on sait que tout ce que nous possédons, c'est ni'ma min Allah, ça vient d'Allah. Si mon voisin, il a un niveau de vie qui est supérieur au mien, il a plus de confort dans sa vie, plus de revenus, plus de facilité avec sa famille et tout, ben, et que j'ai compris que c'est un bienfait qui vient d'Allah, et que Allah donne des fois quand on demande. Mais des fois, Allah donne même si on ne demande pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la désobéissance et ils ont des bienfaits. C'est-à-dire que c'est Allah qui décide. Tout ça émane de la décision d'Allah. Ça règle quel problème? Qui me dit en un mot? Là, la jalousie. La jalousie, c'est un vilain défaut, ça? Tout le monde est d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas un vilain défaut. Hein, Hudaïfa? Comment on doit dire, nous? C'est un vilain péché, plutôt. C'est pas un défaut, c'est un péché. Et d'une gravité, on n'imagine même pas. La jalousie ronge le bonheur qui est pourtant présent. Une personne a tout, mashallah. Je vous donne un exemple extrême, hein? C'est un peu machin, mais parfois, quand on va dans l'extrême, on réalise. Allah prend une personne et l'amène à Makkah, à Madina. Il est dans l'hôtel, mashallah, il fait le umrah. D'accord? Il est dans un hôtel, je ne citerai pas le nom, et il voit son voisin qui est, là je vais citer le nom, il est Darut Tawhid, il est intercontinental, il est tel ou tel, tel ou tel. Alors qu'Allah t'a pris dans ton pays, alors que tu ne le méritais même pas, Allah t'a amené vers Baytullah, vers sa maison, avec l'ihram, pour lever les mains, demander pardon pour tes péchés, raser ta tête, je parle pour les messieurs, et couper les cheveux pour les dames, et avec tes péchés qui tombent, et tes doigts exaucés devant la Kaaba, la personne qui a cette maladie spirituelle, qui est la jalousie, même si elle baigne dans des ni'amas, dans des bienfaits, il suffit que cette maladie habite son cœur, que malgré les bienfaits qui sont autour de lui, la personne va ressentir de la jalousie que lui, il est tel endroit, il a tel hôtel, il a full board, il mange midi, soir au buffet, il a les moyens, je le vois acheter des choses. Vous savez, la jalousie, ce n'est pas uniquement quand on est dans une situation précaire. La jalousie, c'est une maladie qui accompagne le malade spirituel, Wallahu musta'an, toute sa vie et dans n'importe quelle étape de sa vie. Parfois, il y a des petites vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. On voit quelqu'un qui a une voiture et qui regarde quelqu'un qui a un 4x4. Quelqu'un a un 4x4, il voit quelqu'un qui a une Porsche. Quelqu'un a la Porsche, il voit, et ainsi de suite. Et celui qui est dans une grosse voiture, une Ferrari, je ne sais pas quoi, il voit sur son portable, un telle personne a acheté un jet privé. Ah, si j'avais mon jet privé, ça m'aurait évité les embouteillages de ma Ferrari. C'est-à-dire que c'est une caricature, hein, mais ça veut dire que la jalousie n'a pas de limite. Quand cette maladie pénètre les poitrines, pénètre les cœurs, ça ne s'arrêtera jamais. Si, ça s'arrêtera à un moment donné. C'est quand ? Quand on meurt. Et ça pourrit ta vie. Ça pourrit ta vie parce que tu as des bienfaits et tu ne réalises pas. Un. Deuxièmement, tu restes dans l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est le contraire de ce qu'on est en train d'étudier depuis des mois et des mois. Ashukru lillahi. Être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et l'ingratitude, c'est le contraire. Et qu'est-ce que l'ingratitude provoque ? La in shakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. On verra ça, ça fait partie des points qu'on va aborder. Quand une personne est reconnaissante, Allah lui accorde plus. Mais quand une personne fait preuve d'ingratitude, Allah peut reprendre le bienfait. Soit Allah le reprend complètement, soit Allah, Rabbul Izzah, décide de le punir le jour de Qiyamah parce qu'elle était ingrate face à un bienfait. C'est-à-dire qu'on a tout à perdre. On a tout à perdre quand notre cœur est habité par cette maladie spirituelle. Et plus grave, concernant notre... Je cherchais le terme qu'ils utilisent en finance, je n'ai pas en tête... Notre capital, voilà. Notre capital hasanat. C'est quoi le capital hasanat, Abdurrahman? Je viens d'inventer le terme, donc c'est pas correct de vous demander c'est quoi. Le capital hasanat, c'est ce que j'ai dans mon livret d'action à l'instant T. Mais il n'y a pas d'application, ça. Il n'y a pas une application CEPAC ou KSD ou BNP ou autre pour checker j'ai combien en ce moment. Non, il n'y a pas ça. Ça, Allah seul le sait. Mais... tout ce que j'accomplis comme bonne action, c'est stocké dans le livret avec l'ange du bon côté qui écrit les bonnes œuvres. Mais il y en a qui écrit les péchés aussi, ça c'est une réalité. Et là où c'est, quand on dit, on ne veut pas parler d'un défaut mais d'un péché qui est grave, qui est même destructeur, c'est que le prophète alayhi salat wa salam nous a rappelé un hadith concernant la jalousie. Qui nous rappelle le hadith ? Conséquence de la jalousie sur notre capital bonne action. Cher. Ça brûle. Les hasanat. Exact. Barakallahu fik. Ça m'a expliqué que la jalousie consume les bonnes actions comme le feu brûle et consume le bois sec. Le brindis, en une seconde, il n'y a plus rien. Moi, j'ai fait tahajjud, j'ai fait ishraq, j'ai lu Coran, j'ai lu mon yassine ce matin. J'ai fait, mashallah, j'ai fait plein de choses. Parce que je vois quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas, j'éprouve ce malaise intérieur. En plus que ça me détruit psychologiquement, en plus que ça fait de moi un être ingrat, mais en plus de tout ça, mes bonnes actions sont en train d'être consumées. Parce que la jalousie, c'est... ne pas accepter la hikmah d'Allah, la sagesse divine. Être jaloux, c'est refuser qu'Allah ait accordé un tel et ne m'ait pas accordé. C'est remettre en question la distribution du rizq, du rosi. C'est remettre en question que Allah est shakur, qu'Allah est karim, qu'Allah est rani et qu'Allah est ar-razzaq, celui qui accorde la subsistance. Ça, c'est d'une gravité extrême parce que ça te touche au plus profond de ta foi. Et comme ça touche au plus profond de ta foi, c'est normal que dedans, ça brûle les bonnes actions et ça fait diminuer ton iman. Qu'Allah nous protège. Et comment remédier à ça ? La grande question. Parfois, on parle d'une maladie spirituelle, mais c'est quoi son tazkiyah ? Comment se purifier de cette maladie ? Mais c'est connaître notre Seigneur, comment il agit avec nous. Et de cette façon, on arrive à faire la part des choses. à relativiser. À partir du moment où le mu'min connaît comment Allah agit, c'est ce qu'on appelle la sunnat d'Allah. On retrouve le terme du Coran, sunnat Allahi fil ladina khalaw min qabl, et d'autres passages, comment est-ce qu'Allah a l'habitude d'agir, sunnatullahi fil kaun, comment Allah agit dans la création. Du moment que tu as intégré, tu as compris, le mu'min trouve la quiétude est là, et la sakina, et on ne sombre pas de ce sujet. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce nom d'Allah, ash-shukr et ash-shakur. Donc, on essaie d'avancer. La dernière fois, on avait étudié Sayyidul Istighfar. On avait vu, bien là, en détail, pardon, chaque terme de ce doigt qui est exceptionnel. Et on avait dit, Saadji nous a rappelé, qu'on devait faire un petit rappel concis sur les adhkars qui sont importants après la fois. Même si on est légèrement hors sujet, ça reste quand même important. Ce qu'on a vu la dernière fois, la portée de ce doigt. Et on avait dit qu'il était important de le lire matin et soir. J'espère qu'on a essayé de le mettre en pratique au mieux, d'accord ? Et j'ai même envoyé le Sayyid al-Istighfar à ceux qui le voulaient sur WhatsApp. C'est des fichiers qui sont déjà prêts, accentués, traduits, il y a tout. Tout est là. Il suffit de lire. Et celui qui le lit avec conviction. Par contre, la conviction, je ne peux pas vous envoyer par WhatsApp. Ça, ce n'est pas possible. À moins que vous avez une application yakin.com ou je ne sais pas, ou tawakkul.fr, ça, je n'ai pas, moi, ça. Je peux vous donner les doigts, les adhkars à lire, mais le prophète m'a dit que celui qui le lit, quel était le terme ? Muqinan biha, il me semble, oui. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُقِنًا biha. Celui qui lit ce doigt, c'est de l'istighfar le matin avec yaqin, conviction. Mais comment avoir la conviction ? C'est la grande question. Comment avoir la conviction ? Si je reste de le péché du matin au soir, si je ne fais aucun effort pour les bonnes œuvres, comment rêver cet état spirituel qui est tawakkul, yaqin, et tout ce qui est en rapport avec iman bil rêve, c'est difficile. Donc il y a un travail spirituel à faire sur soi, et celui qui arrive à le lire avec conviction, déjà, cette conviction, elle va transiter par une première étape qui est la compréhension. C'est-à-dire dépasser le stade de pratique pour pratiquer, de pratique héréditaire, héritage culturel, où je lis, hein, parfois on voit des gens qui lisent, machin, des kitabs comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle des Hezbollah, Zamrot, c'est bien. C'est très bien, c'est profitable, c'est des hasanat. Mais la personne, depuis des années, lit, elle ne fait que lire. Mais si seulement, on va pas être dans un discours négatif où on ne comprend pas que c'est ici à vous lire. Non. On ne comprend pas, ou bien hasanat. Quelqu'un faisait ta'alim, on écoutait de l'oreille droite. Et alif, la mim, alif, hasanat, la, tout ça c'est bien, c'est positif. Et ça c'est la beauté de la religion aussi. Il n'y a pas besoin d'être un érudit pour pratiquer. La personne qui lit ses adhkar sans comprendre, elle a sa récompense. Mais ce qu'on peut dire à ces personnes, si seulement vos cœurs pouvaient s'imprégner du sens et de la profondeur de ce que vous lisez, mashallah, au quotidien, ben, another level, comme on dit, on passerait à un autre niveau, un niveau spirituel qui est, je ne dis pas ce qui est celui des sahaba, mais les sahaba, ils y étaient, eux. Ils y étaient. Leur lecture pénétrait leur cœur, ils comprenaient entièrement. Et ce n'est pas qu'une question de comprendre l'arabe ou ne pas comprendre l'arabe, c'est bien au-delà de ça. Une personne peut ne pas connaître l'arabe. Il y a la traduction en français et comprendre le sens. Et à chaque fois qu'elle va relire le dhikr, ce adhkar par exemple, ce dhikr, penser au ma'na, ben c'est bon, il y est, même si la personne n'est pas arabophone. Donc on avait expliqué que celui qui le lit avec conviction le matin, et si la personne meurt, Allah lui a promis le Jannah. Et celui qui le lit le soir avant de dormir, avec conviction, et si cette personne meurt le soir, Allah lui promet le paradis. Promesse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est inspirée par qui ? Quand le Prophète fait une promesse, qui l'inspire ? Hein ? Qui lui donne l'autorisation, le ijaza pour dire ça à la Ummah, qu'Allah réserve le Jannah pour eux ? C'est Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ? Hein ? 90 jours avant Ramadan. In huwa illa wahyun yuha, au majhoul, au passif. Le prophète ne parle pas de lui-même, sens du verset. Hein. C'est pas qu'il pense quelque chose, il dit comme nous pense, nous dit tout ce qui passe par nos têtes. Non. Chaque parole de notre prophète, notre Nabi Karim alayhi salatu wassalam, c'était wahyun min Allah. C'était ce qu'Allah mettait dans son cœur. C'est pour ça que c'était l'homme parfait. Parfait dans ses paroles, parfait dans son comportement, parfait dans tout ce qu'il faisait au quotidien. Donc, on disait que, je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs, on est parti un peu loin. Hein? Celui qui le lit donc avec conviction, voilà. Maintenant, imaginez que la personne, subhanallah, prend cette habitude, tawfiq min Allah, de le lire matin et soir. En fait, soit on meurt le matin, soit on meurt le soir. Et le matin, c'est depuis le tulu'ul fajri jusqu'au soir. Donc, si la personne prend cette bonne habitude toute sa vie de le lire, huwa min ahlil jannati insha'Allah. Allah nous accorde cette chance, mais voilà, maintenant il faut s'accrocher au sens et le lier avec conviction. Et justement, en parlant de la mort, quelle heure il est là? Il reste 4 minutes, on va clôturer. Bon, du coup, on n'a pas démarré aujourd'hui. On a introduit, on a tourné un petit peu en rond, mais je pense que c'était recadrer l'objectif, l'intention et le manfa'a, l'importance. Parce que des fois, on peut se dire que, écoute, chaque semaine, on fait un nom d'Allah et on avance, après c'est fini, après on passe à notre kitab et tout. Non, qui c'est qui est pressé là? On n'a pas besoin d'aller vite, mais on a besoin de bien comprendre les choses. Et pour moi-même en premier. Chaque fois qu'on lit et on relit et on explique, subhanallah, ça fait un effet sur le cœur qui est important. C'est indispensable. Vous savez, quand il y a les vacances, comme là, un mois, hein, parfois même vous êtes dans un endroit béni, Makkah, Madina et tout, mais s'il n'y a pas la connaissance religieuse, on sent un vide spirituel. Le ibada, les actes d'adoration, ne sont pas suffisants pour nous élever spirituellement, parce que nos actes d'adoration sont faibles. Il y a plein de manquements de nos a'mal. Mais quand on parle de la parole d'Allah, la parole prophétique, ça c'est de la pureté, ça. Il n'y a rien de plus pur que ça de ce dunya. Mais ça, ça nous apporte, subhanallah, ça apporte à tout le monde une lumière qui est incomparable et qu'on ne trouve pas dans aucune autre bonne action. Donc, je dis qu'on clôture pour ce soir et on devait juste, la prochaine fois je vous dis qu'est-ce qu'on va faire inshallah avec istiqama, on va rappeler la situation de bienfaits, les différents types de bienfaits qui nous entourent et maintenant comment remercier Allah bil lisan. On avait vu ash-shukru bil qalbi, on avait plus ou moins développé être reconnaissant de le cœur, maintenant reconnaissant par les paroles, et on va peut-être même vous étonner que être reconnaissant, Allah aime voir les bienfaits chez son serviteur. Ça fait partie du comportement qu'Allah attend de son makhlouq, de son serviteur. Quand Allah te donne des bienfaits, vis avec tes bienfaits. Ça ne veut pas dire d'en faire trop, juste un juste milieu. Et il y a des enseignements comme ça qui permettent de voir qu'on a une religion qui est totalement cohérente. On ne sombre pas dans le matérialiste. Mais on ne va pas aller non plus dans un genre d'ascétisme complet où, je marche à pied, pas de voiture, parce que ça c'est dunia et tout. Parfois, il y a des délires comme ça, il y a des gens qui sont dans une spiritualité délirante. Non. Par exemple, n'a-t-il pas parlé du chameau à poil roux? C'est un ni'ma qu'Allah accorde à ses serviteurs, ça fait partie des bienfaits. Le toit, c'est un bienfait, ainsi de suite. Donc, il y a une cohérence de la religion. Il y a une cohérence et on parlera de ça, inch'Allah, la prochaine fois. On devait terminer sur deux points. Justement, comment parler de si on meurt le matin, si on meurt le soir, laissez-moi vous faire part d'une petite expérience de ce matin. C'est personnel. Je suis parti de le sud, donc passé par la route du littoral. Et hier, il y avait ce qu'il y avait. Donc, c'est clair que quand il y a des chutes de rochers comme ça, et qu'on doit prendre la route le lendemain, on se pose beaucoup de questions. Ça va et ça va pas. Parce que hier, que l'heure arrivait 9h30, aïe, ça passe à bas 9h, quand le soleil finit sorti, Bengalé finit comment sec, craquelé, il tombe, là, ça travaille. Donc, en roulant, subhanallah, c'est la première fois qu'on admire autant les montagnes. On regarde. Et puis on se dit que, moi je dis, j'ai roulé très vite, 110, enfin, j'ai pas été flashé. Pourquoi on se dit que vaut mieux aller vite, parce que vaut mieux finir que ça. Mais, taqdir, après on se dit que, attends, il y a destin. Que tu roules à 90 ou que tu roules à 130, s'il est écrit pour là, il va qui n'a où, hein? Si c'est écrit pour toi, et ne demande en Allah, il y a la protection. Parce que si tu vas vite et que le galet tombe à un moment précis, en allant vite, ça te touche. En allant doucement, c'est une question de taqdir. C'est pas au petit bonheur à la chance, c'est pas rien du tout. C'est des situations de la vie où, j'espère qu'on n'a pas à vivre ça souvent dans des situations extrêmes, on apprend à s'en remettre à Allah uniquement. Où il n'y a rien, c'est pas de tes mains. Pas de tes mains. D'accord? Un rocher qui tombe de, je ne sais pas combien de mètres, la montagne, de 200 mètres, c'est bon, tu peux avoir la voiture que tu veux, c'est bon, hein? Ça traverse. D'accord? Donc, c'est parfois des petits rappels, des événements de la vie, on se dit que notre vie là, elle ne tient à pas grand chose. Tu as des projets plein la tête. Des objectifs, là c'est la rentrée, on va faire ça, tac, il arrive quelque chose, khalas. Ça veut dire que rien n'est de nos mains. Mais ce qui est dans nos mains, guillemets, c'est la préparation pour le moment. Tu ne maîtrises pas, toi, quand tu vas mourir. Mais par contre, prépare-toi pour ce moment. Sois toujours prêt. Il faut toujours te ceinture attachée, la ceinture spirituelle. Toujours être prêt. Ça peut arriver dans la masjid, sur la route, en avion, en mai, peu importe. Mais le mu'min se doit d'être toujours prêt, toujours clean de son cœur. Et on devait parler également d'un autre point. On peut s'accorder 3 minutes pour ça. Parce que c'est un sujet d'actualité. Et avec les réseaux sociaux, ça circule beaucoup. Et j'aimerais qu'on freine un peu sur les partages de certaines informations. Ça concerne le virus en Chine. Donc, on sait ce qui se passe, il n'y a pas besoin de l'expliquer, tout le monde suit les actualités. Il y a un petit message qui circule qui me dérange, moi, personnellement. C'est quand certaines personnes se réjouissent de ce virus et ils mettent en avant le fait que on ne va pas parler politique, mais on sait ce qui se passe avec les Ouïghours, ça se dit comme ça, Ouïghours, hein. Qu'est-ce qui se passe? Des millions de personnes dans des camps de concentration. C'est vrai tout ça. Les médias français le relatent et les médias anglophones, tout le monde le dit. C'est très clair. Et là, on voit aussi l'hypocrisie de l'être humain. Hein. On sait qu'est-ce qui se passe. Mais comme c'est un pays qui compte beaucoup trop, personne ne veut froisser ses relations avec ce grand pays. Parce que c'est les futures puissances, donc on les laisse faire ce qu'ils veulent. Bref. Et certaines personnes donc se réjouissent, voilà, vous avez fait ça aux musulmans, ben voilà la punition d'Allah et tout. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Pas le droit de dire ça. Tout ce qui est maladie, sécheresse, catastrophe naturelle, je reprends le terme, d'accord ? Tremblement de terre, cyclone, tsunami et ainsi de suite et tout, ce sont des manifestations de la puissance d'Allah et du décret divin. Tout ça, ça fait partie du taqdir d'Allah Azza wa Jal. Nous n'avons pas à commenter les événements qui viennent de notre Seigneur. Parce qu'un événement qui touche 30 personnes, pour lui, c'est un ni'ma. Pour lui, c'est une épreuve. Pour lui, c'est un châtiment. Et ainsi de suite. Et Allah seul sait pourquoi il envoie telle ou telle chose. Ce n'est pas à nous d'interpréter que voilà le châtiment divin qui vient par rapport à ce qui a été fait. Donc ça, il faut qu'on arrête. Et ça rejoint notre principe, c'est que le mu'min ne doit jamais souhaiter le mal pour son prochain. Musulman, pas musulman. Jamais souhaiter le mal. Parce que quand une personne se réjouit, mais il faut savoir que la population qui meurt là, vous avez vu des vidéos des gens qui tombent, c'est terrible, c'est affligeant. C'est des femmes, c'est des hommes, mais c'est des enfants aussi. Est-ce que ces enfants-là sont responsables de ce que le gouvernement fait? Non. Marsoum, ce sont des innocents. Comment est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Abadan. On doit au contraire demander à Allah Rabbul Izzah de leur accorder la santé, d'éradiquer cette épidémie et que cette maladie, elle disparaît et que ça n'arrive pas chez nous, bien sûr, mais que les personnes qui sont de ces pays également, qu'Allah leur accorde la santé. Et qu'Allah leur accorde la guider, pourquoi pas? Si on veut être vraiment plus cohérent et plus profond dans nos adhiya, dans nos doigts, dans nos invocations. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est à l'échelle humaine, là, on n'a pas à commenter ce qui se passe. On n'a pas à dire que ça, c'est la volonté d'Allah, c'est le châtiment. Ça, il faut arrêter. Parce que l'approche humaine, elle n'est pas correcte. Parce que quand on voit des enfants mourir, on se rend compte que j'ai dit ça, c'était peut-être pas bien ce que j'ai dit. Il n'y a que toi, en tant qu'être humain, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Donc, ne fais pas de commentaires et va plutôt dans ce qui est positif. Et dans ces vacances-là, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de visiter la ville de Taïf, dans Umrah. Et c'est des événements que je souhaite à tout le monde de vivre un jour. Quand vous voyez l'endroit où le prophète sallam, il parlait aux gens, quand il faisait sa prêche, et le champ, l'endroit où il a trouvé un jeune enfant qui s'appelle Adas, qui lui a donné à manger, qui l'a réconforté, qui a eu une conversation avec lui, et qu'on se rend compte de la hauteur des montagnes, parce que c'est 1h30 de trajet, c'est fatigant, c'est très fatigant. Et le prophète le faisait à pied ou à monture, donc c'est subhanallah. Il y a plein de leçons, ça on gardera ça pour vendredi tafsir, d'accord, rappelle-moi. Mais ce que je veux souligner, c'est que malgré une situation d'oppression directe sur lui, quand l'ange des montagnes est venu lui proposer d'écraser Ahlul Ta'if ben al-Akhsha. Et le prophète a dit non. Il a fait doua pour ceux qui vont venir après eux. On se rend compte que c'est puissant. Allah l'a envoyé comme une bénédiction pour les mondes. C'est l'envoi la rahma de lequel le prophète sallam rahma envers des oppresseurs, envers des gens. C'est pas juste, on parle pas d'islamophobie là, hein? On parle de personnes qui l'ont frappé, qui l'ont, on connaît l'histoire, subhanallah. Donc c'est pas à nous de maudire des peuples ou autre chose, aucunement. Au contraire, demander à Allah de l'accorder la santé et la guider. Après, il y a un autre point concernant le fait que ce soit une maladie contagieuse ou non. Dans certains textes, le prophète alayhi salat wa sallam a dit qu'il n'y a pas de contagion en islam. Et en commentaire, les ulama disent qu'il n'y a pas de contagion, mais il n'y a pas de maladie contagieuse, je veux dire. Mais en même temps, on voit que le prophète a donné des consignes, des conseils. Quand vous êtes, si vous êtes dans un endroit où il y a at-ta'un, at-ta'un c'est la peste, qu'Allah nous protège. Si vous entendez, que dans un endroit il y a la peste, n'y allez pas. Et si vous êtes dans un endroit où il y a la peste, ne quittez pas l'endroit. Là, on voit bien que ne va pas chercher des problèmes. Il y a une maladie, n'y va pas. Et si tu y es, ne en ressors pas parce que tu vas propager le virus et la maladie. Alors, c'est quoi le juste milieu? Quand en même temps le prophète dit qu'il n'y a pas de maladie qui est contagieuse, ça dépend de ta confiance en Allah. En commentaire, les muhaddithines disent que celui qui a une confiance en Allah qui est subhanallah du niveau des sahaba, ben effectivement cette personne sera protégée de tout ce qui est maladie, ainsi de suite, parce que, mais bon, je ne pense pas qu'on ait nous ce niveau de confiance, notre foi est tellement faible. Donc c'est un point aussi à retenir, qu'il ne faut pas développer une psychose. Il y a des messages qui circulent sur WhatsApp, pour faire ça il faut boire de l'eau chaude, n'importe quoi, boire de l'eau chaude, boire avec le thé, boire avec le café, mais depuis quand de l'eau chaude il protège du virus, si tu crois n'importe quoi. Bref, il y a une psychose qui est en train de s'installer, une crainte, une peur et tout. Non, il faut être modéré, il faut retenir une chose, que rien ne nous atteint sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit maladie physique ou tout ce qui est atteint paranormal et ainsi de suite, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est par ordre d'Allah. Et le prophète nous avait dit que sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal, ils ne te feront rien de plus que ce qu'Allah a déjà écrit dans ton destin. C'est-à-dire que le mu'min doit avoir le cœur léger et ne jamais sombrer dans la psychose et se dire que tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, dans nos ad'iya, demandons à Allah de leur accorder la santé et de donner la hidayah à ces gens et peut-être même à leurs dirigeants pour qu'ils arrêtent aussi leurs injustices. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.